Radio Campus Angers.
Voilà.
L'afterwork avec Olivier Piat.
Le principe est simple, tu parles bien en face et tout devrait bien se passer.
Comme c'est ça, ça va?
C'est pour la première radio de Tony, c'est génial. Les amis, oui, soyez les bienvenus dans cet afterwork épisode 167. Rendez-vous compte, aujourd'hui nous faisons la part belle aux cons. Oui, aux cons. Pour vous dire, si je devais évoquer tous les cons qui me viennent en tête, eh ben, je pense que les 52 minutes qui nous attendent ne suffiraient pas. Rassurez-vous, cette émission sera consacrée à un con gentil. Con caduc, voire con débutant, je suis très heureux et curieux de recevoir l'auteur du livre intitulé Le Grand Con. Mais avant de vous le présenter, là je fais du boursier là, mais avant de vous le présenter, voilà, permettez-moi d'introduire quelques cons de l'équipe. Oui, la liste suivante étant non exhaustive, monsieur le con Pascal Boursier. Coucou Pascal.
Salut tout le monde, qu'est-ce qu'on a eu comme con dans cette émission depuis 6 ans? Ah, même avec un masque? On en a eu, hein.
Ouais, ouais, et les pires sont à venir, paraît-il.
Oui.
À la réalisation, l'âge faisant doucement son effet, il est de moins en moins jeune, mais les aînés étant ce qu'ils sont, ce sera toujours le plus jeune des cons de l'équipe. Le petit con, Looping.
Non, j'ai des amis très cons, mais pas à ce point-là.
Salut Clément, welcome on. Et puis j'allais oublier un con autour de cette table, le grand con, oui, moi-même, puisque j'invite Tony à nous parler de ce livre, Le Grand Con, et je l'avoue honteusement, je n'ai pas lu ce livre, il est dans ma liste de chevet, mais l'invitation s'est faite rapidement, et je ne me sentais pas assez con pour en parler avant même de le lire. Non, non, s'il te plaît,
bon, au revoir. Si, non, si tu es aussi con, tu vas rien comprendre. De toute
façon. Bah ouais, évidemment.
Tu vas pas le voir, con et naïf.
Bienvenue.
Généralement, ça va te perdre.
À tous dans l'afterwork du livre de du con, ou pas, on peut le dire.
Ah oui, ah oui, oui.
Bon,
oui.
Bah sois le bienvenu, Tony Gallo.
On peut même dire que c'est un beau compliment.
Ouais. Comme c'est lancé. Tu l'assumes, celui-là. Hein.
Ah oui.
Allons-y pour l'afterwork du con.
L'afterwork sur bien. Radio Campus Angers. 103 FM, internet, podcast, radiocampusangers.com.
Bon, c'est quand même le con autoproclamé aujourd'hui.
Oui, bah ça change. Oui, oui, autoproclamé, assumé.
Ouais. Bon, en revanche, je n'aurais pas fait cette émission sans un lecteur avisé. Voilà, et je dois dire investi, puisque l'idée de faire de l'afterwork de Tony Gallo vient de ce membre émérite, Pascal Boursier.
M'étant reconnu dans le titre.
Toi, tu as lu ce livre.
Ouais.
Un petit mot pour nous dire pourquoi tu as voulu inviter Tony?
Bah, tout simplement pour qu'il nous parle de ce livre, parce que je trouve que c'est un livre très important. Il n'y en a pas autant que ça qui ont été faits. C'est le livre d'un gars du coin, Tony.
Oui,
un gars du coin.
Oui, exactement.
Le livre se passe aussi dans le coin. C'est chouette parce qu'il y a plein de références à notre ville, aux alentours, à l'agglomération et aux endroits où tu as été. Et puis c'est un film, moi je le définirais comme un film coup de poing. Oui. Coup de poing dans le bide, coup de poing dans l'estomac, coup de poing au cœur, parce que c'est une histoire très très forte. C'est écrit très rapidement. T'as beaucoup de virgules. Mmh. Il se passe des. C'est un livre que. Alors, on va faire de la promotion évidemment du livre. Mais pour moi, c'est pas un livre que j'ai lu tranquillement assis ou allongé dans mon canapé. On vient de remonter mon slip là. C'est-à-dire mon masque sur le nez. Merci. T'es un père pour moi, Olivier. C'est pas un livre que. Qu'on lit tranquillement sur son canapé, en ayant pris son petit café après un petit déjeuner, où il peut se lire. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai lu que j'ai lu en urgence. Parce qu'on a l'impression que ce personnage, on sait qu'il va se passer plein de choses, et pourtant lui ne veut pas qu'il se passe toutes ces choses. Tu vas nous en parler. En tout cas, l'écriture, elle est pour moi très cinématographique, très moderne, très actuelle. C'est... Et on peut en parler avec Olivier parce que ça rejoint aussi ton écriture. C'est-à-dire les hommes et les auteurs d'aujourd'hui, je vais revenir sur les hommes, mais en tout cas, les auteurs d'aujourd'hui, vous avez une façon d'écrire qui est très quotidienne.
C'est désacralisé un peu aussi.
Exactement. Vous allez peut-être gueuler les mecs, mais voilà, c'est une nouvelle littérature, quoi. Ça se consomme, et le mot consommer pour moi, il est
noble, ouais.
Il est noble, effectivement, mais ça se consomme comme ça. Vous racontez vos histoires, vous injectez vos histoires de mecs, vos histoires avec les filles, vos histoires avec votre famille, vos parents. Et je trouve ça, moi en tout cas, je suis très sensible à ça. Ce qui est génial, c'est que vous nous racontez, les gars, des histoires de mecs, mais en y injectant. Et maintenant, je trouve que cette période est très bien. Les filles, il faut que vous en soyez conscientes, vous y injectez beaucoup de féminité dans vos mecs qui pensent à baiser, qui pensent à aussi parfois avoir la plus longue par rapport aux autres, mais avec beaucoup de féminité. Et je trouve que ça, c'est un bon démarrage.
C'est féminin.
C'est un beau démarrage.
C'est avoir la plus longue.
C'est plus loin, peut-être. Mais en tout cas, je trouve que dans cette période-là, c'est chouette de vous lire, les garçons.
Bien, merci. Moi, je prends ça pour moi. Je t'en laisse
oui,
un peu,
aussi.
Tony.
Oui, merci. C'est sympa. Oui, d'ailleurs, dans le texte, il y a ces chassés-croisés entre les situations plus ou moins heureuses, sentimentales, que vivent les hommes et les femmes. Et j'ai une lectrice qui m'a dit qu'il y a eu quelques déboires dans sa vie perso, sentimentaux, et qui avait une position assez ferme par rapport à certaines attitudes masculines. Et qui m'a dit, alors je le redis à peu près, mais c'était ça. Bah, ça fait du bien, ça m'a réconforté un peu avec les hommes, quoi. Ça fait du bien de voir que bah, eux aussi, de l'autre côté, il y avait un peu ça dans son discours, ils morflent, et ils sont un petit peu parfois démunis aussi. Ah, donc il y a en effet cette espèce de chassé-croisé sur les relations sentimentales, et ça rejoint, je pense, un peu le côté féminin. Bah oui, on peut se retrouver... D'ailleurs, c'est assez sectaire, hein, le côté victime plutôt féminin ou masculin. Il y a des victimes des deux côtés, malheureusement. Et puis c'est la vie, quoi. Enfin, elle laisse des gens sur le côté, sur le plan sentimental, économique. Enfin.
Bon, bah, ça nous fait une bonne pile de sujets de discussion à aborder pendant cette petite heure ensemble. J'ai invité des filles pour débattre avec nous. Elles ne peuvent pas être disponibles. En tout cas, voilà, je voulais dire que ça n'avait rien de sectaire s'il n'y en avait pas aujourd'hui. En tous les cas,
dommage.
Ça aurait pu très bien être la grande conne, puisque la parité faisant son œuvre. Je vous propose de découper cette émission en quatre chapitres. Le pitch du livre. Qui est Tony Gallo, alias Steph, on l'apprendra. Comment tu construis ton livre, ta démarche d'auteur, car tu écris aussi notamment sur un blog, on en parlera. Et quelles sont tes attentes, ton ambition sur la vie de cette œuvre, sa postérité évidemment, parce que ça y est, ça va rester dans l'histoire. Et puis tes projets littéraires, voilà, on va aborder tout ça, entrecoupé de musique. La musique est importante pour toi, pendant l'écriture par exemple?
Alors, j'ai découvert la musique sur le tard, en fait. Et,
ah oui,
et bêtement, grâce à une application... Oui, parce que je suis issu d'un milieu où on ne lisait pas forcément beaucoup. On écoutait... Alors, si, j'ai grandi avec Sardou. voilà. Johnny. D'ailleurs, j'en garde une nostalgie très affective.
Hein. Chanteur populaire, donc.
Exactement, exactement. Mmh. Et j'ai découvert une application, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Shazam.
Ah ouais.
Et Deezer. Et alors j'écoute de la musique dès le réveil depuis des années grâce à ces applications-là. Donc, par contre, quand j'écris, non. Les seules musiques que je supporte, c'est un peu de vent, les pas de mon fils à l'étage, et c'est tout.
Encore que.
Oui, il ne faut pas qu'il la ramène trop.
Très bien. Et puis ces petits morceaux de papier sur la table de l'afterwork, garantie sans virus. 4 papiers pour 4 chansons sur les cons. Et je te propose de choisir l'ordre de passage de ta main innocente, Tony, si tu veux prendre un des papiers et nous énoncer la chanson qu'on va pouvoir écouter ensemble.
Alors, Vanessa Paradis, chanson des vieux cons.
Ah, c'est une très jolie chanson que lui a écrite Benjamin Biolay. Tu vas peut-être la découvrir avec
exactement.
Nous.
Exactement.
Parfait. Allons-y, Clément Looping, c'est l'afterwork de Tony Gallo et de son livre Le Grand Con. A tout de suite, les copains.
Tant qu'on ne sait pas, qu'on ne sait rien. Qu'on est de gentils petits chiens. Tant que la petite santé va bien, on n'est pas la queue d'un être humain. Tant qu'on ne sait pas le coup de frein qui vous brûle à vif un jour de juin. On ne sait pas que tout s'éteint. On ne donne quasi jamais rien. Tant qu'on ne sait pas que tout est rein. Tant qu'on ne sait pas ce qu'est la vraie crainte. Tant qu'on n'a jamais subi la faim. Regardez pousser le lierre qui grimpe. Tant qu'on n'a pas vu le ciel d'éteint flotter le cadavre d'un humain. venu comme un dessin. Juste un ou deux traits au fusain. C'est une chanson pour les vieux cons comme moi, petite conne d'autrefois. C'est une chanson qui vient du fond de moi, comme un puits sombre et froid. Tant qu'on ne sait pas qu'on est heureux, que là-haut ça n'est pas toujours si bleu. Tant qu'on est dans son nuage de bœuf, on ne se dit pas je valais mieux. Tant qu'on n'a pas brûlé le décor, tant qu'on n'a pas toisé un jour la mort, tant qu'on a quelqu'un qui vous serre fort, on tombe toujours un peu d'accord. C'est une chanson pour les vieux cons comme toi, petit con d'autrefois. C'est une chanson qui vient du fond de moi, comme un puits sombre et froid. Tant qu'on ne sait pas ce qu'est la fuite, la honte que l'on sait qu'on mérite. Tant qu'on danse au bal des hypocrites, qu'on n'est jamais plongé vers la vie. Pas vu brûler son nid en quelques minutes à peine fini. Tant qu'on croit en toutes ces conneries qui finissent toutes par pour la vie.
Ah, je suis content de vous faire découvrir cette chanson, les garçons. Vanessa Paradis, sur un texte de Biolay, Benjamin.
Tout Biolay, quoi.
Ouais.
Tout Biolay, il faut, faut l'écouter. Il n'y a pas.
Exactement. Y a pas. Toi qui découvres depuis quelques années la musique et tout ça, je t'invite vraiment à découvrir l'œuvre de Benjamin Biolay. Ouais, Vanessa Paradis, qui a été muse de tant d'auteurs. Enfin,
il a un tube qui passe là en ce moment, qui est bien. Hein.
Ouais. Ah oui.
Ouais, comment va ta peine, je crois.
Ah oui, lui, ouais. C'est,
comment va ta peine.
Voilà.
La mienne est comme ça.
Très très belle imitation. Non mais c'est...
Bah, il a prévu de nous faire Paul Prébois après, je crois.
Ah, génial. C'est la ressemblance, tu veux dire?
Ah non, physique.
Star Wars, du grand con,
grand
Tony.
Con, celui-là.
Allô. C'est bien, parce qu'on peut s'insulter, ça passe.
En fait. Ouais, il adore ça.
Joli roman de 300 pages. Est-ce qu'on peut commencer déjà par parler de ce livre? Qu'est-ce que ce livre? Le pitcher, comme on dit. Est-ce que, Tony, tu veux nous parler des grandes lignes?
Oui, on commence le roman avec dans la vie de Tony. Un gars qui a passé la quarantaine, on devine assez vite que sa vie, elle tient. Voilà, bon an, mal an, il a passé quelques séismes jusqu'ici, deux divorces, dont il ne s'est pas vraiment forcément relevé. Et puis une enfance, il est issu d'un milieu qu'on va qualifier de marginal. Et il a construit sa vie sur un effort qui consiste à tenir sa famille à distance, parce que comme il le dit dans le livre, La famille, c'est un troupeau d'emmerdes prêt à charger à n'importe quel moment. Hein, donc on démarre le roman dans ce statu quo-là. Et il va lui arriver quelque chose qui peut arriver parfois quand on a du bol. Il va tomber fou amoureux. Ah. Et là, ça va être une naissance pour lui. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va comprendre sa place dans l'existence. Il va se trouver même à l'épicentre de l'existence. Et ça va être une révélation. Ça va durer un peu. Et puis le troupeau va charger. Le passé, la famille, les choses qui n'ont pas été réglées. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, dans le roman, il y a une mécanique qui se met en place. Juste qu'à une fin dont, bien entendu, je ne dirai rien.
Bien sûr. Est-ce que ça peut ressembler à une autobiographie quand le héros s'appelle Tony et que l'auteur s'appelle Tony ?
Alors, oui et non. Il y a forcément de l'autobiographie, oui. puisque j'y dépeins un milieu que j'ai connu dans mon enfance.
Tu parles des milieux populaires ?
Oui. Même très, très populaire, oui. Oui. Hein, je pense que quand on va dans
de banlieue, alors.
Oui, mais il y a plusieurs strates sociales dans une banlieue. Mmh. Hein, et là, on était plutôt dans le bas des strates sociales de la banlieue, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières. Mmh. Et puis, c'est une histoire qui finit bien, de toute façon. Donc, voilà, je dépeins ce milieu-là par attachement, en fait, à ce milieu-là. Mmh. Hein, c'est aussi pour ça que, par rapport à ce que disait Pascal tout à l'heure, le ton, il est un peu coup de poing, parce que ça aurait été le trahir que de le décrire en faisant des phrases ou en voulant faire de la littérature. Je dépeins ce milieu-là, donc c'est autobiographique. Il y a quelques personnages dont je me suis inspiré dans le réel. Après, s'inspirer, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça peut être un regard qui t'inspire un personnage. Ça peut être l'effort minimum, parce qu'il y a déjà tout le potentiel romanesque chez la personne. Donc voilà, entre ces deux extrêmes, la palette, elle est très large. Par contre... rien de ce qui arrive dans le roman quasiment ne m'est arrivé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène qui est décrite dans le roman qui m'est vraiment arrivée. Il y en a peut-être 2-3 sur les 300 pages, en fait. Hein, donc le reste, c'est de la fiction. Hein. Mais en effet, ça reste autobiographique parce que j'ai voulu mettre en avant des émotions et donc les gens qui m'avaient fait ressentir ces émotions-là, un milieu. Hein, donc oui, dans ce sens-là, c'est autobiographique. Mais en même temps, sur le pseudo Tony Gallo, Tony, c'est le nom de le prénom de mon demi-frère que je ne vois pas assez et c'est à ma charge. Et Gallo, c'est le nom de mon grand-père que j'ai très peu connu mais qui a été une figure paternelle très forte en fait. Je l'ai connu sur très peu de temps. Il était pépiniériste au jardin à Briand, à Saint-Jean-de-Linière. Il se levait à 5h du mat en mobilette et il était accroupi dans les serres été comme hiver. Ouais. Et voilà. Et du coup, moi, je l'ai connu dans son dernière année de travail il est disparu peu après, mais c'était une figure très forte en fait qui m'a marqué et qui m'a marqué à tel point que je n'ai su que en tant qu'adulte ce que je devais faire de ce souvenir-là. Hein, donc voilà, oui, autobiographique et non, parce que j'ai pas raconté les événements de ma vie dans ce livre-là. Quoi.
Ouais, bien sûr. Pascal est en train de réfléchir. Excuse-moi.
Oui, et c'est marrant parce que quand on parle, tu parles. Rien qu'en expliquant d'où vient ce Tony Gallo, tu parles d'un demi-frère et d'un grand-père. Et ouais. avec cette pièce, ce qui est drôle aussi, c'est que ce personnage reste jamais en place.
Avec ce livre, ouais.
Ce personnage ne reste jamais en place. Mais par contre, on reste sur sur peu de personnages, finalement. On ne reste que sur la famille. Même l'aimé reste quand même dans un cercle très étroit.
Oui. Oui, parce qu'en fait, quand je l'ai écrit, il s'est écrit en deux temps, ce roman. Je suis en train de mettre en l'air ton plan.
Non, vas-y.
Ton déroulé. Il s'est écrit en deux temps, c'est-à-dire que j'ai participé à une époque à un atelier d'écriture, et dans ces ateliers, on vous fait écrire sous contrainte. Donc, par exemple, on peut très bien vous dire, vous n'écrivez deux pages, mais qu'avec des verbes du premier groupe. Ça vous force à sortir de vos réflexes. Et là, il fallait décrire une scène avec une émotion sous-jacente. C'est la scène d'ouverture, en fait, du roman. Et puis, à la fin, tout le monde, quand on se lit les passages, tout le monde me dit « Oh là là, c'est fort, il faut vraiment que tu continues. » Alors, bon, je suis parti de cette scène-là, et puis j'ai essayé de tirer un peu la ficelle, quoi. Hein, donc, un peu sur le portrait du gars qui a tout foiré, voilà, personnage que j'aime bien, les gens qui ont tout loupé, j'ai une affection particulière pour ces gens-là. Ouais. Et au bout d'une soixantaine de pages, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, t'as posé un décor, maintenant il va peut-être falloir que ça avance vers une fin. Et c'est pour ça qu'il y a deux temps dans le roman. Au bout de 60-70 pages, j'ai construit un storyboard en fait de scènes qui s'enchaînaient vers une fin. Et après, ça m'a permis du coup de m'atteler scène par scène à l'écriture, ce qui correspondait aussi à mes contraintes matérielles. Mais à partir du moment où on attaque le storyboard, on est dans cette mécanique où on sent que là, ça y est, le troupeau d'emmerde, pour parler vulgairement, est en train d'arriver et que ça charge, quoi, en fait.
Moi, j'aimerais bien, excuse-moi, vas-y.
Non, t'as
j'aimerais juste revenir au personnage principal. Est-ce que tu peux quand même un peu approfondir ce terme de con ? Parce qu'à par moment, on le comprend très bien, et il y a presque un côté léger, humoristique, sur le mec qui rate un peu tout. Mais c'est vrai que déjà, c'est quand même un peu plus lourd que ça. Il y a une raison s'il rate un peu tout.
Parce que c'est le personnage principal, parce le que grand con.
Bien sûr. Mais il y a aussi des fois, je me dis, est-ce qu'on ne se planque pas derrière quand même ? Est-ce que tout ça ne va pas aussi donner tout d'un coup une légitimité ? Il est con, de toute façon. Au bout du compte, il va chier un peu le truc, tout ce qu'il va essayer de faire. Et est-ce que finalement, c'est presque pas une excuse de ce personnage qui aurait pu peut-être mieux faire par moment, peut-être mieux voir des choses. Alors, il a cette intelligence au final de se rendre quand même petit à petit compte de ce qui se passe, des choses, et d'être presque un lien dans toute cette famille et cette fratrie. Mais du coup, voilà, comment tu définirais ce con ? Parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses dans un con.
Oui. Alors,
c'est pratique. C'est tellement pratique d'avoir un con.
Pas sans jeu de mots. Non, pardon.
Bon, je vais essayer d'enchaîner.
Ouais, excuse-moi, on peut mettre beaucoup de choses dans un con. Oh, ouais. Non, allez. C'est
non,
sérieux.
Mais j'aime aussi beaucoup la poésie. Hein.
La preuve.
Donc, oui, alors pour répondre à la question, oui, forcément, il est con. Il a toutes les facettes de la connerie, mais qui sont les marqueurs de son parcours et de son niveau social. Il est con avec les filles. Enfin, il peut l'être, en tout cas. Il est con parce qu'il ne voit pas les coups venir. Enfin. Il anticipe pas grand chose en fait, et ça c'est propre à ce milieu là c'est à dire qu'on vit dans le présent, on touche les allocs, on les dépense en 10 jours et puis on verra pour après quoi, hein, parce que les 20 autres jours du mois précédent on s'est un peu privé, et du coup on fonctionne comme ça. D'accord. Avec les filles c'est pareil, lors de la rencontre la semaine dernière on m'a dit oui mais quand même les femmes. Alors on m'a dit vous déjà, alors bon je suis pas le personnage du livre, mais c'est quand même de la viande.
C'est difficile.
Ça transpire quand même malheureusement.
Ouais, alors
heureusement, mais en tout cas non, pas ouais.
Ouais, mais ça transpire. Mais je vais y répondre du coup.
Très bien.
Et on me dit oui c'est quand même il les considère quand même comme de la viande machin. Alors j'ai déjà rappelé que ça peut aussi marcher
dans le sens inverse.
Et puis c'est lié à son milieu, c'est-à-dire que en effet à cette époque et dans ce milieu là. Comme exutoire, bon, et ben, y a l'alcool, il peut y avoir les taloches, et puis le sexe, quoi. Et puis c'est tout. Hein. Et à un moment, quand on devient un homme, fonder une famille, un monospace, c'est pas la question. C'est pas la question. Est-ce que j'ai envie de ça, d'elle, voilà. Et c'est tout. Et donc il a les tares de ce milieu-là, et il les a tares, sans jeu de mots. Voilà, il y a ça. Et puis quand même, il y a deux types de femmes dans le livre. Hein. Il y a celles qu'on baise, excusez-moi, et puis il y a celles qu'on aime, parce que les deux grandes claques qui le foutent, qui lui soufflent les jambes dans le roman, c'est quand même deux fois où il tombe amoureux. Donc il y a les deux. Hein. Et je crois que en effet, il y a les femmes avec qui on se fait plaisir, et puis il y a les femmes avec qui on partage durablement. Et l'inverse est aussi vrai.
Et comme l'inverse est vrai, évidemment. Alors pas pour le.
Je sais pas si j'ai répondu hein, sur le grand con, du coup.
Tout à fait.
Pardon.
Une réponse. J'accepte. C'est validé. Nous notons.
Une bonne réponse.
Alors il reste un élément. Ma mère m'appelait le grand con.
Hein, ah, c'est
quand
mignon.
J'étais ado. Et j'ai mis longtemps à trouver le titre et en même temps que je me penchais sur la question à comprendre le pourquoi de ce terme-là, le grand con. C'est qu'en fait, il y avait deux dimensions. Il y a la partie con, qui était le gars bien ancré dans le milieu, quel con, enfin voilà. Et puis le grand, qui était la partie de moi qui leur échappait déjà, en fait, qui commençait à aspirer à autre chose. Et j'ai trouvé que du coup, que ce surnom qu'elle me donnait à l'époque, pas que ma mère d'ailleurs, mes proches, résume bien l'espèce de grand écart dans lequel il est au moment du livre, quoi.
D'accord.
Pas dans le milieu social où l'histoire évolue, hein, mais dans le style d'écriture, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté San Antonio, Berrurier, ça, c'est dans la complicité, dans le langage très verbal et.
Il y a presque du Audiard un petit peu. Des fois, tu te fais plaisir aussi quand même dans cette écriture-là, parce que tu connais tous ces termes, l'argot. C'est une vraie plongée quand même dans un univers. Il y a presque un côté un petit peu reportage. Mais derrière ça, je le répète, énormément d'humanité et finalement,
et de tendresse.
C'est bête à dire ou c'est con à dire, mais on se reconnaît tous, mine de rien, quelquefois dans ces personnages.
C'est ce qu'on m'a dit. Beaucoup, pour rigoler au début, des gars que je connaissais me disaient « Ah, c'est sur moi le grand con !» Et après, rigoler un peu moins.
Il faut dire un mot aussi sur la maison d'édition qui s'appelle Magnitude, et ton livre est noté 7-0, parce que dans la maison d'édition Magnitude, chaque livre a une magnitude, exactement comme sur l'échelle de Richter.
Oui, alors.
Et plus il est haut, plus c'est violent, effectivement.
C'est ça, la maison d'édition, du coup, c'est JDH. Juste si on peut faire une petite parenthèse sur cette maison d'édition, c'est une maison d'édition qui donne de la visibilité à des romans comme celui-ci, c'est-à-dire qui sont un peu en marge, qui sortent un peu des codes classiques. Hein, moi, j'ai reçu des retours de comités de lecture, de grosses maisons d'édition, qui me faisaient comprendre que. Ils avaient besoin que toute l'équipe soit derrière pour porter et qu'ils avaient eu de vifs échanges sur le fait que, en effet, ça pouvait leur plaire, mais qu'en même temps, il fallait l'assumer, ce livre. Hein, et JDH donne la voix à des auteurs qui ont un talent, mais par contre, qui ne vont pas forcément rentrer dans les codes. Enfin, en tout cas, qui ont un talent selon la maison, qui ne vont pas forcément rentrer dans les codes. Et donc, pour prévenir le lecteur, ils ont mis en place sur la collection littéraire. L'échelle justement qui part de je crois que c'est 4,5 jusqu'à 9, hein, et plus on monte
9,5 même.
Plus 9,5 et plus on monte, plus en effet ça peut être quelque chose de choquant.
Sympa, enfin en tout cas le principe est sympa, je
oui.
trouve.
Ouais, effectivement. C'est un financier, alors il est proche des chiffres l'éditeur.
Ouais, donc ça lui plaît.
C'est
et tiens, c'est le
c'est marrant,
numéro
ça.
7, le grand con Tony Gallo, sorti donc chez JDH. Magnitude 7-0, voilà, exactement. Qui est Tony Gallo? On va le savoir dans un instant. Tiens, tu veux nous piocher une autre petite musique peut-être pendant que Pascal prépare son sous-boc? Ce sera après cet instant.
M, grand petit con.
Oh, bah allons-y, c'est sympa de retrouver le gars M. Quelques minutes, et on revient avec Tony Gallo. Ça.
Je deviens con, tout petit.
D'ailleurs, le teasing.
Je suis un grand petit con. Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute à moi ni à personne. Je suis ton propre putain, au grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con. Je sais pas ce que je veux, c'est pas ma vie, j'ai pas envie. Est-ce que je suis ce vieux aigri, tout le kiki?
Ah non!
Je suis con, con, conscient d'être un con, con, inconscient, hein. Au grand petit con, je suis con, con, conscient d'être un con, con, inconscient, hein. Au grand petit con, quand je vois dans tes yeux d'enfant, des hommes, mon fils, tout petit, tout mignon, comme deux grands petits cons, comme deux grands petits cons.
Thank you.
de la grande illusion. À volonté, c'est l'heure, transformée en passion. Tu n'oublies pas la voix lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas. Grand petit con, c'est toi. Grand petit con, c'est moi. Grand petit con, c'est toi.
Bienvenue dans le Festival des Cons, cet afterwork avec Tony Gallo, Pascal Boursier, Clément est à la réalisation, bienvenue. On est bien là, entre cons.
Oui.
Et on voulait le savoir, on a cherché à le savoir toute la semaine, on s'est dit mais qui est Tony Gallo? On est d'accord, on s'est demandé qui c'était cet homme qu'on allait recevoir. Et puis le mieux ce serait peut-être de lui demander en fait, Tony, qui es-tu et pourquoi Tony Gallo? On l'a évoqué tout à l'heure, mais pourquoi avoir choisi de prendre un pseudonyme en tout cas?
Alors, j'ai choisi de prendre un pseudo parce que...
Tu verrais son vrai nom, c'est à chier.
Voilà la vraie raison.
Tout ça,
ça commence
par Gérard Lambert, tu vois, un truc comme ça. Quoi,
c'est mon éditeur, il m'a dit c'est pas grand-chose.
C'est toi, Igozès.
Non,
parce que Tony Gallo, quoi.
Vraiment.
Alors, Tony Gallo parce que... Tony, c'est le prénom de mon...
Ça, on l'a évoqué
tout
à l'heure.
Ah, pardon, ok, ça marche.
Non, mais tu peux répéter. Non, je voulais dire que je suis vrai. Je pose la question, mais j'ai bien entendu tout à l'heure.
Tu remarqueras la politesse, hein. Je repartais sur le...
Non, mais on l'a évoqué, effectivement, mais pourquoi prendre un pseudonyme?
Alors, parce que le projet consiste à mettre...
Mais qu'est-ce que tu lances, merde?
Alors, bah parce que Tony...
Et Gallo,
je me fais traiter de con toutes les 5 minutes, faut bien que je justifie quand même.
Non, c'est parce que moi personnellement, dans le projet, je suis pas intéressant, je suis pas pertinent. Le projet, c'est de mettre en avant des gens. Voilà, de les mettre un peu dans la lumière avec leur contexte. Et moi, tel que je suis aujourd'hui, je ne suis pas pertinent dans ce projet-là. Donc il fallait que je trouve une pantomime à mettre devant et puis, qui continue à mettre en avant d'autres personnes. Alors, moi, ce n'est pas intéressant, en fait. J'ai l'avis de tout le monde, de monsieur tout le monde.
Et toi, Stéphane, toi, tu veux te désengager du projet en mettant un pseudonyme, en mettant un...
Bah, je veux m'engager de manière pertinente et cohérente et en restant à ma place. C'est-à-dire que moi, je suis que la mémoire de certaines choses, en fait. Ça m'aurait ennuyé de...
Mais qui a écrit? C'est Stéphane ou c'est Tony?
Non, en vrai, c'est ma femme. Non, je rigole. Je suis en train de bazarder tout le truc. Non, c'est...
C'est ma femme, le grand con. Super la classe. On continue sur la...
C'est Pascal qui me souffle.
Hé, grand con. J'ai une idée.
Non. Qui a écrit? Donc, Tony ou Stéphane?
Non, c'est une sacrée question. Je pense que tous les samedis matins...
Ben, allongez-vous, je vous en prie, on va continuer l'émission.
Je vais prendre un Doliprane avant, mais... Non, quand tous les samedis matins, quand je me mets à écrire, c'est une version de moi, en fait. Et je pense que c'est plus proche de Tony Gallo que moi, parce que 95% de mon temps, je cours pour emmener les gosses à l'école, pour filer au boulot, comme tout le monde, en fait, faire les courses.
D'accord.
Moi, là-dedans, je suis pas très pertinent. C'est juste que j'ai une espèce d'excroissance. Pour continuer sur le chant de Pascal, j'ai une excroissance de ma personnalité qui écrit. Et...
D'accord. Oui, t'as eu plein de métiers différents. On l'évoque un peu à l'arrière, sur la quatrième de couverture. Tu as plein de métiers différents et il y a cette excroissance de toi-même alors qui est l'écriture.
Ça fait peur d'écrire parce que c'est la première fois que tu écris, tu as toujours écrit.
Comment ça s'est passé? On va évoquer notamment ton blog où tu écris beaucoup.
D'accord,
mais oui. tu parles d'édition, toi.
Non, pas du tout. Je parle du processus d'écriture.
Oui, oui, j'écris depuis l'âge de 15 ans. En fait, contrairement à peut-être à d'autres membres de ma famille, vers 15 ans, j'ai connu plusieurs phases de ce qu'on peut appeler d'acculturation, c'est-à-dire que je me suis frotté à d'autres milieux sociaux. Alors c'est tout bête, hein, mais le lycée, voilà, je suis le seul à être allé au lycée.
D'accord.
Le foot, l'université, l'armée, et à travers ces différents...
Le foot.
Dans une cité.
De vouloir sortir
de. Ça te donne envie d'écrire le fou.
Si tu veux garder un peu de virilité pour faire du foot. Mais quoi.
On est bien d'accord.
Comme quoi, tu t'ouvres.
Ça,
tu t'es
ça
ouvert.
Mène pas à l'écriture.
T'as voulu sortir de.
Oui, et en fait, j'ai découvert
de
que.
De ta zone de confort.
Ouais, c'est pas un effort volontaire. C'est qu'à un moment, tes potes, ils vont tous au foot. Bon, tu y vas, quoi. Le lycée, t'as pas le choix. L'armée. t'as pas le choix. Et du coup, à un moment, tu découvres que ta réalité, c'est quelque chose de marginal. C'est pas la vie telle qu'elle devrait être. C'est pas les codes. Alors classiques, même si attention, parce que la violence, etc. C'est pas l'apanage d'un milieu social. Hein, du coup, à 15 ans, je me suis retrouvé dans cette espèce de spectacle de ce que devrait être la vie. Alors que moi, j'étais un peu dans autre chose. Hein. Et du coup, j'ai eu à 15 ans un sentiment profond d'injustice, de rage, d'impuissance. Et à un moment, comme j'avais découvert la lecture peu avant, je me suis mis à écrire. Alors c'était d'une profondeur, ouais, la vie, espèce de, tu vois, enfin voilà ce que je veux dire, quoi. Hein. Maintenant, je dis la même chose, hein, mais j'y mets des formes. Mais voilà, et l'écriture, elle naît de ça, de cette espèce d'impuissance. À regarder ce qu'on aurait dû vivre en étant prisonnier dans ce qu'on vit, quoi. Mais tant qu'on n'a pas ces phases d'acculturation, ça nous semble normal, en fait. On se pose pas de questions. On connaît pas autre chose.
Tu t'es senti différent à un moment donné, justement, avec cette différence là, le fait d'écrire, le fait d'avoir envie d'écrire, le fait d'avoir l'accès aux mots, au texte, à la littérature. Ça a dû être un peu flippant aussi à un moment donné.
Je me suis longtemps caché, en fait, pour écrire, pour lire. Écrire, c'est même pas la peine. Ouais. Quand tu commences à dire que t'écris, on va t'emmener voir le médecin presque.
L'imposteur est avec nous, hein. C'est le grand con Tony Gallo pour son livre. Alors, avec le nombre de conneries qu'il dit, Pascal, je lui ai dit aussi, prends un pseudonyme, parce que ta famille pourrait te reconnaître, c'est dommage. On va savoir les conneries de la semaine avec le sous-boc de Pascal Boursier, les amis.
Le sous-boc.
Aïe aïe aïe.
L'afterwork.
Arriba, good afternoon, after worker et que Covid est d'hier et d'aujourd'hui, bien la belle après-midi. Aujourd'hui, sans te faire de l'ombre, oh toi Super Tony, papa d'un grand con, d'un Nolni, objet littéraire non identifié, j'ai eu, je l'admets, l'outrecuidance d'amener avec moi un Nini, un individu non identifié rencontré au hasard d'une vie qui aujourd'hui et pour longtemps, je le crains, tourne autour d'un nouveau phénomène de société, la nouvelle religion, le covidisme. Jean Hubert, c'est à toi. Je m'appelle Jean Hubert Samaritain. J'ai 36 ans et je suis covidiste modéré. En gros, tout ce qu'il y a de plus normal. Je me lave les mains 40 à 50 fois par jour. Je dis bonjour avec les coudes. Les coudes, j'ai bien dit, hein. Je ferme les portes avec les coudes. Je suis pour les masques, pas nécessairement les FFP2. Hein. J'ai mis quelque temps à trouver la voie du covidisme. Avant, j'étais une brebis égarée sur le chemin de l'hygiène. Réfractaire, limite complotiste, je ne savais pas. Et un beau jour, j'ai vu la lumière. J'ai pris une amende de 135 euros pour une narine à l'air. Et là, j'ai été frappé par la grâce. Depuis, j'ai atteint l'éveil. Je suis aligné. Ficelle sur l'oreiller, pince-nez. Amen. Je dirais même qu'aujourd'hui, j'éprouve une certaine fierté à porter ce masque par rapport à ceux qui... Oui, qui ne... Enfin bon, bref, on s'est bien compris. Mais attention, hein, je ne suis pas intolérant. J'ai un ami qui éternue. Et il faut savoir garder l'esprit ouvert, parce que sinon, c'est la porte ouverte à des dérives extrémistes de tous bords. Il n'y a qu'à voir ma belle famille. Ma femme est métisse, fille d'une mère athée et d'un père covidiste radical. Pour mon beau-père, c'est simple. Dimanche dernier, on est allé manger chez eux avec les enfants. Bah, il est parti. Quant à ma belle-mère, elle est issue d'une famille de mécréants. Pour eux, le Covid-19 n'est pas une grippette. Non, carrément, il n'existe pas. Et comme ma belle-mère fume des gauloises depuis l'âge de 12 ans, c'est une personne à risque. Donc, on arrive avec des masques en Kevlar, on tient les enfants en laisse, sauf que la belle-mère, non. Elle chope les deux et les couvre de baisers comme ça, sans prévenir, en mode nos futurs. Une vraie punk à chien, la belle-mère. Le cauchemar. Alors moi, j'essaie de récupérer mes enfants. J'ai plus qu'une envie, les purifier, les rebaptiser dans un seau de gel hydroalcoolique, quitte à changer les prénoms. Là, ma belle-mère, elle me dit, enlève ce masque, t'es ridicule. Moi, je ne me démonte pas. Non, mais le ridicule ne tue pas, belle-maman. Et là, elle me répond, mais aujourd'hui, le Covid non plus. Elle s'approche de moi avec son haleine de Goldo. Il nous manipule. Mais de qui parlez-vous? Qui sont-ils? Ben eux! Et puis elle est partie. Donc on a fait un repas chez mes beaux-parents, sans eux. Le covidisme invite à une réflexion sur soi, sur le monde d'après. Enfin, le monde d'à peu près. Parce que ce n'est pas clair tout ça. Hier encore, l'archevêque de Seine-et-Marne a décrété la circulation alternée en zone écarlate. Les personnes nées un jour père ont le droit de sortir, et les personnes nées un jour impair aussi. Mais à cloche-pile.
Et dans les entreprises, c'est pareil. Le curé, enfin, le chief COVID officer, bref, le préfet. On sent le retour aux fondamentaux depuis la nomination du nouveau pape Jean Caste X. Et ça marche. L'autre jour, au pot de départ en retraite d'un collègue, hein, la retraite commence à foutre les jetons aux gens. Hein. Je pourrais pas travailler un petit peu, je veux pas être vieux. Bref. Au pot, la procession en direction du buffet respectait scrupuleusement la distance de 1m24. Chacun tenait son hostie de forme triangulaire à base de farine de maïs. Mais au final, tout le monde a trempé la tortilla dans le guacamole. On était dans le partage, parce qu'aucun décret ne se prononce sur le guacamole, bordel de merde. Ni la Bible, ni la loi, ni la convention collective. Guacamole, sauce cocktail, harissa, même combat. Oh, c'est dur tout ça. Et puis, malgré la foi, allez, on a le droit de fauter, non ? L'autre soir, j'étais seul au bureau dans mon open space. Je voulais finir mon taf au bureau parce qu'il est important de ménager sa vie personnelle. Eh ben, j'ai accroché mon masque à l'oreille gauche. Et même, je me suis gratté le nez. Truc de fou. J'ai même appelé l'ascenseur avec l'index. Mais, en arrivant à la maison, j'étais pas très bien. Je me sentais coupable. Alors, je me suis purifié sur BFM TV. Bref, chacun fait comme il peut, comme il veut pour vivre cette nouvelle religion. À bon entendeur, paix et amour sur vos cœurs, joie et chaleur dans vos demeures. Je finirai, et je ne finirai pas cette chronique sans remercier l'humoriste Karim Duval, à qui j'ai honteusement pillé une bonne partie de son sketch. Et j'ai un peu fait une Gadelle Mallet. Dame Covid m'en est témoin. C'est pour le bien d'autrui. Salut les mécréants d'amour.
Merci beaucoup Pascal. Quelle énergie. D'ailleurs, on peut découvrir, j'entends la voix de Pascal, oui, on peut découvrir sur YouTube quelques extraits de ton livre, Tony, lu par Pascal Boursier. Je voudrais qu'on évoque ce moment sympa. Comment est née cette idée ? Je mettrai dans le podcast de l'émission les liens pour aller écouter les extraits.
Merci.
Comment est venue cette idée de l'un ou de l'autre ?
Comment ça s'est fait ? On s'est vu, on a parlé du livre, tu m'as dit que voilà, ça t'avait touché. Et puis, pas longtemps après, je t'ai relancé, je crois, par SMS, on a communiqué beaucoup par SMS.
En fait, le départ des histoires, c'est on communique d'abord sur une chose, c'est que Tony, je sais plus si c'est toi qui m'as contacté, je pense, j'ai écrit un truc, je trouve que c'est assez théâtral.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Et tu me laisses un petit mail en disant, je te laisse.
Et tu parlais du livre.
Ouais, je te laisse l'histoire en le manuscrit en PDF, le manuscrit en PDF. Ok, d'accord.
Le tapuscrit, on appelle ça.
Ouais,
tapuscrit.
Voilà, le tapuscrit. C'est vrai. Et puis tu me dis ce que t'en penses. Donc évidemment, je l'ai lu. J'ai tout de suite trouvé que c'était plutôt cinématographique que théâtral, mais en le relisant, ben t'as peut-être raison. Et je fais officiellement, devant la France, l'univers.
Tu veux qu'on remette
entier,
la musique de sacrée
une demande.
Moi, je veux bien.
Si le samedi matin t'as rien d'autre à branler, que d'écrire.
Que ton con.
Ouais. Oh, bah, n'hésite pas à commencer à écrire une pièce. Pourquoi pas. T'as les personnages, il y en a pas 36. Donc pourquoi pas. Bref, je reviens là-dessus. Mais sinon, c'est aussi très cinématographique.
Très sur le. Et donc
tout simplement, assez naturellement, tu me dis, bah tiens, ça te dirait pas toi qui es comédien, pourquoi pas. Bah, en fait, pour ma com, enfin,
ouais,
pour
voilà,
essayer
de
lancer aussi une petite, voilà, une communication, une dynamique autour de ça. Est-ce que tu pourrais éventuellement lire. Ça s'est fait, puisque on a la chance avec le groupe Wake Up Tabata d'avoir un studio. Donc, je me suis enfermé dans le studio une après-midi. Et ce qui est rare pour la petite histoire, c'est que toutes ces lectures, et c'est vrai, c'est véridique, je les ai fait en une seule prise. C'est donc la preuve que c'est bien écrit. Parce que souvent quand on fait un truc comme ça, on dit ouais non mais t'es un comédien, enfin voilà t'as un peu l'habitude. Oui, mais quand c'est bien écrit, c'est très simple,
c'est
à dire.
C'est facile.
Exactement.
Et puis d'autant que certains étaient quand même assez longs.
Enfin, ouais, mais tu vois,
4 minutes à lire.
Comme quoi, et ça je le dis pour tout le monde, on plonge tout de suite dans l'écriture de Tony.
Et du coup, moi, enfin, faut vraiment que je remercie Pascal. Du coup, l'occasion elle est trop belle, donc je le fais parce que il y avait rien qui l'obligeait. Enfin, j'en ai eu des gens qui m'ont dit non non, t'es gentil, j'ai autre chose à faire. Hein, voilà. Et Pascal il a dit oui tout de suite et puis en plus il a tenu son engagement parce que ça c'est autre chose derrière les promesses, c'est encore autre chose. Voilà, on peut mettre la musique, je te remercie officiellement.
Alors tu parlais de ta
embrasse ma bague.
tu parlais de ta découverte de l'écriture tout à l'heure, Tony, à partir de 15 ans ça, le fait d'écrire, ça te faisait plaisir ou ça te faisait du bien?
Non, au début, ça me faisait surtout du bien.
Ouais.
Ça me faisait surtout du bien. J'ai écrit au début pour, voilà, je l'ai dit, pour crier la rage, etc. Après, fac d'anglais, donc bon, bah là, j'ai séché les cours pendant 4-5 ans. Et puis, j'allais lire les auteurs américains à la BU.
Ouais.
Et puis après, je me retrouvais avec 2 mètres de photocopie à apprendre pour les partiels. Mais en tout cas, ça m'a permis de continuer à lire, ouais. De continuer un peu à écrire. Alors j'écrivais ce qu'on appelle des poésies réflexives. Hein. Faut imaginer le gars avec le regard complètement allumé, en train de regarder une feuille comme ça, tombée d'un arbre en plein automne, avec son calepin et en train d'écrire. Donc j'étais un peu parti.
Faut être contemplatif.
C'est pas sous Covid, c'est sous acide.
C'est ça, mais en bio, hein, ouais. Parce que je connais rien. Et du coup, bon, c'est vrai que sentimentalement, ça a été une période plutôt calme. Hein, parce que j'ai pas été débordé. Voilà.
C'est
et puis après,
c'est bien.
Ouais. Mais au moins, j'ai continué à écrire. Et puis après, quand j'ai déboulé sur le marché
du... L'humilité, c'est comme la fidélité, ça paye toujours.
C'est ça. Et du coup, après, j'ai commencé à bosser dans des boulots divers et variés. Et là, l'écriture, c'était un moyen de dire, bah, aujourd'hui, je fais ça, mais je ne ferai pas toujours ça. Donc j'essayais d'écrire, toujours. J'ai écrit des fois au milieu d'un rond-point, parce qu'il n'y avait rien dans la zone industrielle où je bossais. Il y avait juste un sapin au milieu d'un rond-point. Donc je m'enfonçais dans les branches, assis contre le tronc, et puis bah là j'écrivais pendant ma pause déj, en fait, avec les voitures qui passaient autour. Donc,
ah c'était toi.
Voilà. Donc, mais j'étais habillé. Hein.
Donc, il y a la dame blanche chez toi dans les rues.
Ce que tu évoquais. Les
accidents. Le grand con, voilà, tous les accidents, c'était ça.
Donc il faut être dans un contexte particulier, toi, pour écrire. C'est ça que tu voulais dire. En fait.
Oui. Ce que je voulais dire, c'est que pendant longtemps, tu me demandais pourquoi.
Oui, voilà.
Pendant longtemps, j'ai écrit parce que je refusais aussi ma condition de manutentionnaire, voilà, d'intérimaire, même si intérimaire c'est un statut et il est très noble comme d'autres, hein. Mais voilà, mon objectif c'est juste de pas perdre l'écriture de vue. Et puis après, un peu plus tard, quand ma vie pro et sentimentale s'est stabilisée, quand j'ai commencé à réussir entre guillemets à peu près à me stabiliser, là j'ai commencé à écrire avec la bonne distance, en choisissant vraiment les sujets qui me touchaient
et en assumant.
Et en assumant.
D'être assis à une table et pas forcément sur un rond-point sous un arbre.
C'est ça, exactement.
Et là est né le blog, peut-être à ce moment-là, un petit peu plus tard.
Bah, le blog, c'était même, oui, c'était un peu plus tard, c'était il y a 2-3 ans.
En tout cas, de la suite de ses plaisirs d'écriture et de vouloir le transmettre, le partager, c'était le seul moyen de le partager.
Bah, j'assumais pas trop. Alors, le blog, c'est bien parce que ça reste anonyme.
Ouais.
Et puis, j'ai un pote qui m'a dit un jour bah, écoute, tu devrais poster sur Facebook quoi, ce que t'écris.
D'accord.
On était à 3h du matin, un peu avinés tous les deux. Mais n'empêche que le lendemain matin, j'ai créé un compte Facebook et j'ai commencé à poster. Et puis, bah, c'est parti de là. Ça, c'était en juillet 2019. Donc, vous voyez, c'est très récent, en fait.
Hein. Même en reprenant des choses que tu avais écrites 20 ans avant sous un...
Ah non, je ne les reprenais pas. Ouais, ce que voilà. J'ai écrit quand j'étais sur le rond-point et bon, à la
ça,
fac, c'est intraitable.
En tout cas, ce que tu
rien
écrivais
en faire, hein.
Maintenant, ce que tu écrivais maintenant, tu voulais le partager. Tu avais cette ambition.
Oui. Mais toujours sur le conseil des autres.
Et à quelle fin?
Bah, c'était de voir un peu si les retours. Le regard des autres, il est pour moi très important. Peut-être des fois même plus que mon regard à moi. Et donc avoir ce retour-là, ça, c'était pour moi un indicateur. Est-ce que t'es sur la bonne voie ou pas, quoi.
D'accord. Et aujourd'hui, ça te fait du bien ou ça te fait plaisir d'écrire? Parce qu'on parlait
alors,
de
bizarrement,
à l'époque, mais maintenant.
Bah, bizarrement, c'est un peu... écrire aujourd'hui, pour moi, c'est plus une... Ouais, bah, ça me fait du bien, je peux pas faire autrement. Mais par contre, je le considère assez presque comme un travail, en fait, hein, mais un travail sans toutes les contraintes du travail, c'est-à-dire que je sais à peu près ce que je dois faire, je sais à peu près le niveau de qualité que je dois atteindre, et puis après, voilà, j'essaye de rendre la copie, quoi. Hein. Alors, il y a toujours le plaisir, hein, parce que sinon, je ne me lèverais pas pour ça, mais donc le samedi matin, voilà, j'ai mon heure écart, mon heure et demie, le dimanche matin, pareil, quand je fais pas la fête la veille.
Ouais.
Mais voilà, ça c'est ancré dans la famille parce que ça embarque toute la famille. Hein.
Ouais, ouais.
Quand ton fils se lève et puis que t'es en train d'écrire, bon bah voilà, il faut composer avec.
Ouais, t'as cette rigueur là, en tout cas tu te l'imposes.
Oui.
J'ai deux questions.
Pascal, pendant que tu pioches un petit papier, regarde, on va faire ça en même temps. Vas-y, Pascal.
Ouais, j'ai deux questions pour vous deux aussi. Puisque tu écris, Olivier, il faut en profiter aussi. Deux questions. Comment votre entourage, c'est-à-dire que toi c'est sûr aussi ton enfance, donc ta femme, tes enfants, quelle est leur sensation, ou en tout cas comment ils prennent ce roman, est-ce qu'ils ont appris des choses, est-ce que tes enfants ont appris leur papa, est-ce que ça dit des choses sur vous les garçons, toi aussi Olivier qui écrit, et ensuite question toute bête, est-ce que quand on écrit, même si à ce niveau-là on se dit pas on va vendre des milliers de, mais est-ce que c'est aussi vous êtes à essayer de regarder bah, combien de d'exemplaires vous avez vendus, parce que quand on écrit et qu'on est édité, on a envie aussi peut-être que ça soit lu, donc vous avez automatiquement un rapport aussi à ça. Si on va faire des dédicaces dans les librairies, il y a un rapport à ça. Ça me fait penser à une chose, moi j'adore
votre impudeur pudique. Voilà.
Vas-y, Tony.
Non, non, je te laisse.
Parce que moi, je sors un bouquin dans un mois, donc on en reparlera à ce moment-là, peut-être.
Non, mais vas-y, je t'en prie.
Non, l'heure tourne et c'est ton afterwork. Et
tu vois,
je garde ces questions en tête.
Une forme d'élégance.
Voilà, voilà.
Alors, la première question, c'était... Oui, ça y est. Donc,
C'est un oral, en fait.
Je voulais te le dire tout à l'heure.
Je suis dans le présent, ça, c'est l'état. J'y suis pour rien. Tout à l'heure,
quand tu demandais à Pascal, c'était quoi ta question, j'allais te dire, mais la bonne réponse, en fait, c'est quand on a oublié la question. D'accord, que la réponse est satisfaisante.
Bon, alors, je vais faire que des bonnes réponses, alors.
Ouais.
Le temps ne fait rien à l'affaire pour Brassens. Je le dis, c'est
d'accord,
fait.
D'accord, très bien. C'est ce qu'on aurait goûté avant de se quitter.
Ma femme, elle, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, hein. Donc elle est très au fait du passé. Donc elle n'a pas découvert, grand-chose. Ce qui l'a étonné, c'est, je crois qu'il y a un moment, quand elle a vu que c'était édité et qu'il y avait des retours, elle s'est dit, il l'a fait, ce con.
Décidément.
Oui, oui. Donc voilà, je pense qu'il y a eu ça.
D'accord.
C'est quelqu'un. Encore aujourd'hui, moi, je suis troublé par elle, mais elle a un regard, il y a des femmes qui vous font grandir, en fait. Hein. Si devenir un homme à un moment c'est monter à son arbre, il y a des femmes qui vous font vachement à la courte échelle quand même, quoi. Hein. Et donc elle a ce regard là un peu toujours amoureux et un peu par-dessus, comme ça, a l'air de dire là il faut que j'y sois, quoi. Elle est comme ça, donc elle me conseille beaucoup. Elle a beaucoup bossé sur la correction, parce que je devrais peut-être pas le dire, mais elle est meilleure en français que moi, hein. Donc elle a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et puis voilà, puis elle fait attention à garder ses zones à elle, pour elle, etc. Donc elle est très garante de je suis parti, tu vois, la bonne réponse, je suis parti de la question.
Et les enfants,
bah non. Mon fils, c'est trop tôt, il a 8 ans, je lui dis des fois, quand ça coule dans la conversation. Voilà, ma grande, elle le sait aussi, elle a 19 ans, elle sait aussi.
Ah ok, ouais. D'accord. Et le rapport à un livre qui est acheté par quelqu'un dans une librairie.
Alors au début j'étais très à cran sur les ventes et puis j'ai appris qu'en fait le nombre de ventes moyen pour un roman c'est 300.
Quelques centaines, ouais.
Ouais, c'est 300. Il y a des Gallimard qui font 70, voilà, et qui a peut-être 20 ou 30 auteurs qui vivent de leurs plumes. Donc du coup, bah ça m'a permis de prendre un peu de distance. Moi, ma vie aujourd'hui, elle est faite, en fait, entre guillemets, quoi. Il va m'arriver des tuiles, hein, je le sais, voilà, j'ai 50 ans, j'ai réussi ma vie, et voilà, je mise pas tout sur mon livre, loin de là.
C'est du plus et du bonheur.
Ouais.
Comme 2 minutes de Brassens, c'est du plus et c'est du bonheur.
C'est ça qui l'a tiré.
Évidemment.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent le genou pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con. On est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. On est con,
on est con,
qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre plus de controverses, on caduque ou on débutant,
qui compte la dernière averse, vieux pont des neiges d'antan. Petit compte la dernière averse, vieux pont des neiges d'antan.
Yeah! Allons-y!
Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangers.com.
C'est vrai les amis, je vous avais parlé de 4 chansons, donc le dernier extrait écrit et chanté pour des cons et parfois par des cons, vous l'aurez à la suite du podcast, comme tous les podcasts de l'émission, vous les retrouvez sur le www.radiocampusangers.com dans la rubrique Afterwork. Un grand merci Tony d'être venu nous parler du grand con. Ce livre paru aux éditions Magnitude,
JDH édition.
JDH, la collection s'appelle Magnitude.
C'est ça.
C'est exactement ça. Un dernier mot peut-être ?
Merci, c'était un super moment. Je suis arrivé stressé, mais en fait,
merci à toi.
Mais en fait, c'était génial.
Non, c'était cool.
Tu es ici chez toi. Merci de nous avoir ouvert ton cœur, Tony. Et merci aussi à Stéphane qui était derrière toi. Merci beaucoup Clément pour la réalisation, évidemment. Et à très bientôt Pascal. Merci de ta fidélité, de ta bonne humeur. Et puis de garder le masque.
Mais tu ne te débarrasseras jamais de moi.
À bientôt les amis, la semaine prochaine. Ouh, encore un beau programme. N'inquiète, là vous verrez, c'est avec Caravelle, ce sera de la musique. Bisous les copains.
Au mur des prisons, j'inscrirai moi-même.